Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, l'Évangile de ce dimanche est particulièrement riche et l'on peut y découvrir plusieurs sens. Si l'on s'intéresse tout d'abord au sens prophétique, c'est-à-dire à ce que ces faits réels signifient pour la vie de l'Église, nous pouvons y trouver de nombreuses leçons pour nous et un riche enseignement, en nous mettant notamment à l'école des pères de l'Église. Voici ce que ceux-ci en ont tiré. Cette barque de pierre où notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa doctrine, c'est l'Église catholique, apostolique et romaine, dans laquelle il l'annoncera jusqu'à la fin des temps. Cette mer sur laquelle vogue cette barque, c'est le monde, si changeant, si mobile, au milieu duquel l'Église conserve toujours sa constance et son immutabilité. Cette nuit infructueuse qui précède la venue de Jésus-Christ et l'image des ténèbres spirituelles qui couvraient la terre avant la naissance du divin Sauveur. Le jour qui lui succède est la figure des connaissances qu'il a apportées. L'ordre qu'il donne à ses disciples d'avancer en pleine mer pour pêcher nous représente celui qui leur donna ensuite d'aller annoncer l'Évangile dans tout le monde. La multitude prodigieuse de poissons qu'ils prennent dans leur filet, ce sont toutes les nations de la terre qui se convertirent à la parole des apôtres. Les filets qui se rompent, ce sont les schismes qui survinrent. La barque presque submergée, c'est le relâchement introduit dans l'Église par la multitude des chrétiens. Cette autre barque qui, appelée, vient au secours de la première, c'est la synagogue qui, à la fin des temps, se réunira à l'Église pour compléter le nombre des élus. Enfin, ce rivage où, suivant un autre évangéliste, notre Sauveur attend ses disciples et où la barque arrive avec peine, où l'on compte et l'on sépare les poissons qu'on a pris, c'est l'éternité où aboutit la vie présente, le port divin où l'Église arrive enfin au milieu des orages, pour y trouver le terme de ses travaux, le discernement de ses vrais enfants et la récompense de ses peines. Voilà les grandes vérités que les saints-pères ont découvertes dans cet évangile. Nous envisagerons cependant aujourd'hui cet évangile sous un angle différent, sous un angle plus moral et plus spirituel. Il y a en effet dans le travail des apôtres, occupés à pêcher, l'image et le modèle de nos occupations ordinaires. Car les apôtres de notre évangile travaillent en deux circonstances bien différentes. D'abord, éloignés de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite en sa présence. Le travail des apôtres, en l'absence de notre Seigneur, nous représente la vanité des occupations des gens du monde. Le travail de ces mêmes apôtres, sous les yeux du divin Maître, nous montre, au contraire, l'utilité des occupations des âmes fidèles. Quel fut en effet le travail des apôtres en l'absence de Jésus-Christ? Ils s'en plaignent eux-mêmes à notre Seigneur. « Maître, lui dit Pierre, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Per totam noctem laborantes nihil cepimus. » Per totam noctem, pendant toute la nuit. La nuit dans la nature, c'est la privation de la lumière qui est causée par l'absence du soleil. La nuit dans la religion, c'est la privation de la lumière de la grâce qui fait de nous les amis de Dieu. Le monde est tout entier plongé dans la nuit, dans les plus épaisses ténèbres, puisqu'il ne connaît pas notre Seigneur Jésus-Christ, la véritable lumière. La conséquence est que les hommes ne vivant pas sous la lumière de la grâce ne peuvent non plus vivre continuellement sous la lumière de la simple raison naturelle et se laissent nécessairement dominer par leurs passions. Le monde, tel que l'apôtre Saint Jean nous le décrit, est le règne des trois concupiscences. Concupiscence de la chair, ou recherche des plaisirs sensuels. Concupiscence des yeux, autrement dit du faste, de la richesse qui le procure, et aussi de la vaine curiosité. Orgueil de la vie, qui s'exprime par l'ambition, le désir de la gloire, et surtout la pernicieuse soif d'indépendance qui a perdu le premier homme et le premier ange. Et rien ne contribue plus à aveugler un homme que le péché. Plus l'attachement à ses concupiscences devient fort, plus les ténèbres s'épaississent dans une âme. Et les choses de Dieu, les choses de la vie spirituelle, sont de plus en plus difficiles à saisir. C'est pourquoi tant d'âmes sont endurcies dans le péché, dans les ténèbres. C'est pourquoi il est si difficile d'expliquer les choses de Dieu à quelqu'un qui est attaché au péché. Il ne comprend pas. Il est dans les ténèbres. Per totam noctem, dans les ténèbres les plus profondes. Sans être aussi enfoncés dans les ténèbres, nous pourrions, nous aussi, souffrir d'un certain aveuglement spirituel, être dans une certaine nuit, si nous prenions l'habitude de n'agir que selon nos façons de voir, refusant de nous soumettre à la volonté de Dieu, même dans les petites choses, si tant est qu'il peut y avoir de petites choses dans ce qui regarde le service de Dieu. Dieu nous manifeste sa volonté, soit de façon extérieure, par ses commandements, les préceptes de l'Église, mais aussi par les avis des prêtres ou d'autres personnes de notre entourage, soit de façon intérieure, par ces touches subtiles du Saint-Esprit, qui parle à notre cœur, nous inclinant à tel effort, à telle vertu, à tel renoncement. Si nous refusons d'obéir à la voix de Dieu, si nous fermons notre cœur à la lumière de Dieu, nous ne pouvons que tomber dans un certain aveuglement, une certaine nuit, plus ou moins grave selon ce que nous refusons de faire, plus ou moins dommageable pour notre avancement spirituel. Et il nous faut sortir de cette nuit pour entrer dans la lumière de Dieu. Per totam noctem laborantes, travaillant pendant toute la nuit, travaillant. Les apôtres qui travaillent de nuit sans rien prendre sont l'image par leur travail de tous ceux qui se donnent beaucoup de mal pour les biens périssables qu'ils n'obtiendront jamais ou qui, s'ils les obtiennent, n'en jouiront que peu de temps et s'apercevront bien vite de la vacuité de ce qu'ils recherchaient avec tant d'ardeur. Il y a pour nous une leçon à tirer. Les gens du monde, privés de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ne manquent souvent pas d'ardeur pour leurs affaires, et même certains possèdent des vertus réelles qui les rendent admirables par certains côtés. On rencontre des personnes prudentes, d'autres patientes dans les adversités, certaines pouvant faire preuve d'un grand courage, d'autres encore affables et soucieuses du bien des autres, certains pratiquant une vraie modération dans la recherche des plaisirs. Cependant, sans la grâce de notre Seigneur, ces vertus, toutes réelles qu'elles sont, ne peuvent être qu'imparfaites. Le cardinal Pie a raison et, à la suite de Bossuet, a pu ainsi parler de ces vertus dont l'enfer est plein. Ces vertus dont l'enfer est plein. Il faut retenir l'expression. Vertu, hélas, disait-il, scandaleusement louée jusque sur des tombes où l'homme de foi ne devrait porter que des larmes inconsolables. Et il enjoignait ses prêtres à enseigner que les vertus naturelles, que les lumières naturelles, ne peuvent pas conduire l'homme à sa fin dernière, qui est la gloire céleste. À enseigner que le dogme est indispensable, que l'ordre surnaturel dans lequel l'auteur même de notre nature nous a constitués par un acte formel de sa volonté et de son amour est obligatoire et inévitable. L'ordre surnaturel est obligatoire et inévitable. À enseigner que Jésus-Christ n'est pas facultatif et qu'en dehors de sa loi révélée, il n'existe pas, il n'existera jamais de juste milieu philosophique et paisible où qui que ce soit, âme d'élite ou âme vulgaire, puisse trouver le repos de sa conscience et la règle de sa vie. Ça n'existera jamais. Et il concluait son exhortation par ce dernier conseil. Vous enseignerez qu'il n'importe pas seulement que l'homme fasse le bien, mais qu'il importe qu'il le fasse au nom de la foi. Au nom de la foi. Par un mouvement surnaturel, sans quoi ses actes n'atteindront pas le but final que Dieu lui a marqué, c'est-à-dire le bonheur éternel des cieux. D'où la conséquence de notre évangile, nihil cepimus. Ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Entendons qu'une âme privée de la grâce ne peut rien faire, absolument rien, qui vaille quelque chose pour la vie éternelle. Il faut cependant tenir que si un pécheur ne peut rien faire pour la vie éternelle, il ne s'ensuit pas de là que tous ses actes soient nécessairement des péchés. Mais même ses actes bons, naturellement, ne valent rien pour la vie éternelle. Per totam noctem laborantes nihil cepimus. Nihil, rien. Le travail des apôtres sous les yeux de notre Seigneur fut au contraire un travail tout différent de celui qu'ils avaient fait pendant son absence. Il y a là pour nous un modèle à imiter pour que nos œuvres soient fécondes devant Dieu. Au lever du jour, il est dit que les apôtres lavaient leurs filets, lavabant eletsia. Nous devons nous aussi prendre le temps de laver nos filets, de nous retirer du tumulte de nos travaux ordinaires pour nous recueillir, rentrer en nous-mêmes, prendre le temps et faire l'effort de se tenir en son intérieur. Le recueillement est absolument nécessaire pour connaître ce que Dieu attend de nous, pour ne pas se laisser entraîner par nos passions, par l'attirance du monde, pour résister aux tentations. Il est encore nécessaire d'inspecter notre intérieur en examinant sa conscience tout d'abord, pour la soumettre à la lumière de Dieu, repérer les manquements que nous avons pu commettre, les mauvaises habitudes que nous avons pu contracter, les efforts que Dieu attend de nous. Et puis il est nécessaire de laver notre âme par la contrition de nos manquements et surtout par la confession qui nous redonne des forces pour marcher sur le chemin du ciel. Et alors, nous entendrons ce commandement de notre Seigneur, « Duc in altum », « Allez au large », c'est-à-dire prenez comme motif de vos actions, de vos pensées, les choses du ciel. Nous devons avoir pour le motif de nos actions, comme nous le recommandait le cardinal Pie, des motifs surnaturels. L'amour du bon Dieu, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, de Jésus crucifié, de Jésus souffrant. Marcher sur ses pas, imiter ses vertus, s'unir à ses souffrances. Cette marche en la présence de Dieu est le grand moyen de sanctification donné par Dieu à Abraham. Il lui avait dit en effet, « Marche en ma présence et sois parfait. Pense à moi, dirige tes actions vers moi et tu seras parfait. » Ce commandement de Dieu d'aller au large est aussi une invitation à la prière, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Si nous voulons que nos œuvres plaisent à Dieu, qu'elles soient surnaturelles, il nous faut prier pour recevoir le secours de Dieu, l'aide de sa grâce. Pas de grâce sans prière. Cela nous permettra d'obéir à la voix de Dieu. In verbo atemto laxaborete, à votre parole, à votre commandement, je lancerai le filet. Et alors nous aussi, nous accomplirons cette pêche miraculeuse. C'est-à-dire que nos vies seront pleines de Dieu, que nos œuvres seront bénies de Dieu, profitables pour notre âme, pour ceux qui nous sont chers, pour toute l'Église. Concluons par une citation du livre de la Sagesse qui résume tout ce qui vient d'être dit. Dans ce passage, le livre de la Sagesse met dans la bouche des pécheurs ce langage au moment de leur mort. Voici ce que disent ces pécheurs. Nous nous sommes donc égarés de la voie de la vérité, et la lumière de la justice n'a pas lui pour nous, et le soleil de l'intelligence ne s'est pas levé sur nous. Nous étions dans les ténèbres. Nous nous sommes lassés dans la voie de l'iniquité et de la perdition. Nous avons marché sur des chemins difficiles. Nous avons travaillé en vain, beaucoup et en vain. Et nous nous avons ignoré la voie du Seigneur. De quoi nous a servi l'orgueil ? De quel profit nous a été la vaine ostentation de nos richesses ? Toutes ces choses ont passé comme l'ombre, les trois concupiscences. Ainsi, nous-mêmes, à peine nés, nous avons cessé d'être et nous n'avons pu montrer aucune trace de vertu surnaturelle. Mais nous avons été consumés par notre malice. Mais les justes vivront éternellement, et le Seigneur leur réserve leur récompense, et le Très-Haut pense à eux. C'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur un royaume de gloire et un diadème éclatant. Car il les protégera de sa droite, il les défendra de son bras saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.